Salut et bienvenue à Mauvaise Augure.
J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est moi votre hôte, Frédéric. Aujourd'hui, on va tremper dans le fabuleux monde du paranormal. Petite mise en garde, si vous croyez pas que dans notre univers, il y a des forces extérieures, ou peut-être même des extraterrestres, c'est peut-être après l'écoute de cet épisode que vous allez changer d'idée. Non, sérieusement, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre et après avoir passé des heures à rechercher sur le sujet, je ne sais pas trop quoi en penser de ce genre de phénomène. Et c'est le genre d'événement mystérieux qui soulève beaucoup plus de questions que de réponses. La mutilation de bétail, ou cattle mutilation en anglais. Un sujet qui est quand même assez fascinant. J'en avais déjà entendu parler vaguement quand j'étais plus jeune. Je croyais que c'était que des mises en scène que des fermiers manigançaient pour avoir le petit 15 minutes de gloire. Mais après avoir passé du temps à lire et me culturer sur le sujet, je peux maintenant affirmer que j'étais très loin du compte. Avant de tomber dans le vif du sujet, deux, trois petites choses. Je dois vendre ma salade habituelle, donc si vous voulez voir des photos ou des documents liés aux épisodes que je publie, mauvaiseaugure.ca, mauvaiseaugure.ca. Et si vous appréciez ce que je fais, n'oubliez pas de partager, commenter, faire des offrandes, parlez-en autour de vous. Sans perdre plus de temps, on va débuter ça avec une multitude de professionnels, scientifiques, biologistes. Ils ont tous tenté de trouver une explication logique à ce phénomène. Même le Bureau fédéral d'investigation a mis la main à la pâte pour finalement déclarer que leur enquête était inconclusive. Ils ont quand même élaboré quelques théories assez farfelues. Je vais revenir sur le sujet plus tard dans l'épisode. La mutilation de bétail, pour les gens qui savent pas trop c'est quoi, c'est quand il y a des cadavres d'animaux qui sont retrouvés, principalement de la race bovine, bien sûr. Mais souvent, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur mort est assez étrange. Ils ont beaucoup de similarités. Des événements assez étranges qui se produisent mondialement ou presque, et ça depuis plusieurs dizaines d'années. Le premier cas d'une longue lignée à avoir été répertorié remonte à pas moins de 1967. Ça s'est produit dans la petite ville d'Alamosa, qui se situe dans l'état du Colorado aux États-Unis. Une petite municipalité qui avait environ 6800 habitants à l'époque. C'est le 7 septembre et la journée tire à sa fin. On se situe sur la ranch d'un dénommé Harry King et un cheval de 3 ans qui a été retrouvé mort. Le jeune cheval se nommait Snippy et est en parfaite santé. C'est le lendemain matin que Harry King a retrouvé son cheval mort non loin de chez eux, à même pas 500 mètres de sa résidence. Laissez-moi vous dire que les blessures du défunt Snippy étaient particulièrement étranges et inquiétantes. Une bonne partie de son cou et de sa mâchoire étaient dépourvues de peau et de certains muscles. Il y a certains ossements qui étaient apparents, il semblait sec et avoir été blanchi. Pour le reste de son corps, lui, il était intact et il n'y avait aucune autre blessure apparente. Les blessures semblaient faites avec précision et proprement, du vrai travail de professionnel. Il n'y avait aucune goutte de sang qui était visible sur le cadavre ou même sur le sol. Après avoir inspecté les lieux, à environ 100 mètres de la scène, semble-t-il qu'il y avait un arbuste qui était en très mauvais état. Il avait été, semble-t-il, aplati et était vraiment endommagé. Et tout près de cet arbuste, ils ont pu observer 6 formes, 6 cercles qui semblaient avoir été brûlés sur le sol, et ces 6 cercles formaient un autre cercle. Et c'est ça, les médias se sont lancés sur cette histoire-là, ça a fait le tour du monde assez rapidement. Le vrai nom du cheval, c'était même pas Snippy, mais bien Lady, donc c'est ça, c'est comme ça que cette histoire est devenue le premier cas associé à de la mutilation de bétail inexpliquée. Je parle de ce cas parce que c'est vraiment le premier qui est associé à ça, mais je crois que c'est à prendre avec un grain de sel, surtout si on change le nom de cheval pour que ce soit plus vendeur. Et faut pas oublier que c'est les belles années 60, où ce que les hippies et le LSD coulaient à flot, une époque où les apparitions d'extraterrestres étaient particulièrement fréquentes, Et depuis la création des téléphones intelligents, où tout le monde a des caméras haute fidélité, bizarrement, il y a beaucoup moins de cas d'apparitions et d'extraits vidéo. C'est sûrement dû au fait que les petits bonhommes verts se sont dit « Oh, les humains sont rendus dans une technologie un peu plus avancée, on va se faire un peu plus discret maintenant. » Pour revenir sur l'histoire de Lady Snippy, une autopsie qui a été pratiquée après sa mort et c'est conclu que ce serait suite à une infection. Ensuite, le cadavre a été remis à un vétérinaire qui se nomme Wallace Leary. Et M. Wallace, ce qu'il a fait avec Lady, il a décidé de garder le squelette et de l'exposer dans son bureau à titre de projet ou je sais pas trop, attraction touristique. Sur le squelette de Lady, il a remarqué qu'il y avait deux blessures sur le flanc droit qui ressemblaient à des marques de laissées par des balles de fusil. Ça rend tout ça un peu plus nébuleux. On peut pas savoir si les deux traces laissées par des projectiles d'armes à feu sont la raison de la mort de Lady, car ça aurait pu arriver des mois avant. Bon, j'ai vu l'histoire d'un homme qui a reçu une balle perdue et que ça s'est logé direct dans son crâne, mais il s'en est pas rendu compte et ça a pris des années. Il y avait des mal de tête chroniques. Mais donc, un cheval qui a reçu des projectiles dans le flanc droit, ça se peut très bien qu'il survive et que personne s'en rende compte. Peu importe si le cas de Lady est authentique ou pas, ça fait plus de 60 ans, ça continue à se produire régulièrement et ça reste que personne n'est capable d'expliquer le phénomène. Maintenant, en 2023, il y aurait plus de 30 000 cas qui se sont produits. Mais je crois pas qu'ils sont tous authentiques. C'est sûr qu'il y en a que ça doit être des canulars de personnes en manque d'attention. Dans la majorité des cas répertoriés, les animaux visés, c'est des vaches, mais il arrive à l'occasion que ce soit des chevaux ou des brebis. Et dans tous les cas, les cadavres retrouvés démontrent de nombreuses similarités. Avant leur mort, les animaux ne démontraient aucun signe de maladie et semblaient en bonne santé. Même après avoir pratiqué une autopsie, souvent leur mort reste inexpliquée. Souvent, les mêmes organes sont manquants, tels que les organes reproducteurs, les yeux, les oreilles, la langue, ainsi que l'anus. Ils ne démontrent aucun signe de morsure, trace de griffage ou autre blessure qu'un prédateur ou une bête sauvage pourrait laisser. Plusieurs témoins ont décrit que les blessures laissées sur les animaux étaient principalement des coupures et des incisions. Propres et d'une précision chirurgicale, les blessures sont pratiquées par une main professionnelle. Mais là, on parle dans des conditions parfaites, genre dans une salle d'opération, pas en dehors, en pleine nuit, incognito, avec une bête qui peut peser je sais pas combien de centaines de livres. À l'occasion, les blessures aussi peuvent sembler cautérisées. Ça veut dire que ça serait pratiqué soit avec une lame chauffante ou un genre de laser. Dans certains de ces cas, il y aurait même des vaisseaux lumineux qui auraient été observés dans le ciel, et ce par plusieurs témoins, dans les jours avant qu'il y ait la découverte d'un cadavre. Et souvent, ces témoins n'ont aucun lien en commun, à part le fait qu'ils viennent de la même région. En parlant de région, je vais maintenant vous présenter des cas qui se sont produits dans différents endroits sur la planète. On se dirige au Canada, dans le nord-est de la province de l'Alberta. Il y a eu de très nombreux cas répertoriés. Il y a eu deux vagues plus importantes. Il y en a une qui s'est produite dans les années 79 et 80, avec pas moins d'une quarantaine de cas répertoriés. Et ensuite, quelques années après, la deuxième vague a été en 1995. Malheureusement, j'ai pas les chiffres pour la deuxième vague, mais la majorité de ces cas, ça se produisait près d'une petite ville qui se nomme Saint-Paul. Une petite ville avec une population d'un petit peu moins que 6000 personnes. Et dans cette petite communauté, il y a beaucoup de gens qui croient aux extraterrestres, je crois. Car en faisant mes recherches, les premières photos que j'ai vues, que ça me sortait sur la ville de Saint-Paul, c'est assez particulier. C'est un quai d'atterrissage pour les extraterrestres que les citoyens ont construit. Et ce quai d'atterrissage n'a pas été construit en plein milieu de la forêt, non. Il a été construit tout près du centre-ville. Donc c'est ça, après avoir été victime de nombreux cas de ce genre, la GRC ou la Gendarmerie Royale du Canada a mené une petite enquête entourant la mort de plusieurs de ces animaux. Mais ce fut très peu concluant et n'ont pas été en mesure de donner une explication valable pour tous ces cadavres. La théorie qu'ils ont donnée, c'est un peu la même que le FBI, là. Ça serait la main de l'homme et sûrement un culte ou une secte religieuse douteuse. Mais il y a Fernand Belzile, qui est malheureusement décédé au mois de juillet 2013 à l'âge de 88 ans. Monsieur Belzile était un éleveur professionnel au cours de sa vie, il a été juge aussi de bétail. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que l'homme s'y connaissait dans le milieu bovin. Et c'est exactement pour ces raisons-là que les membres du conseil économique l'ont choisi pour mener une enquête privée sur les mutilations de bétail inexpliquées. Il enquêtait sur plus de 30 cas qui se sont produits au Canada, principalement en Colombie-Britannique jusqu'en Saskatchewan, mais la majorité des cas que Fernand Belzile a étudiés se sont produits dans la région de Saint-Paul. Je crois qu'il est originaire de là. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je sais quand il est mort, il y habitait. Avant d'être engagé pour débuter son enquête, M. Belzile était très terre à terre et croyait qu'il y avait une explication très raisonnable autour de toutes ces morts. Mais après très peu de temps, il n'a pas eu d'autre choix que d'affirmer que c'était vraiment bizarre et probablement surnaturel. Et depuis 7 ans jusqu'à sa mort, il croyait maintenant qu'il y avait des extraterrestres et que c'était probablement eux la réponse pour tous les cadavres d'animaux retrouvés. Il a observé que dans plusieurs des cas, quand la peau avait été retirée, c'était souvent en forme, un peu comme la lettre de l'alphabet M, que toutes les blessures ne démontraient aucun signe qui avait été perpétré par un animal sauvage, mais bien par une main professionnelle et probablement avec un outil très tranchant. Il y a beaucoup de gens qui croient que souvent dans ces cas-là, ce serait des animaux charognards qui seraient responsables. Mais Belzile lui a donné une explication bien simple qui prouve que c'est sûrement pas des charognards qui seraient responsables de tous ces cas-là, car des charognards arrêteraient pas de se nourrir après avoir simplement retiré des parties de peau ou de fourrure. Dans la trentaine de dossiers que Belzile a enquêté, tous les spécimens avaient la langue retirée. Les autres blessures étaient souvent semblables. En examinant les cadavres de plus près, Belzile a pu observer que dans certains cas, il y avait des marques qui avaient été faites. Et c'était souvent deux, trois petits cercles où la fourrure manquait. Belzile a conclu que c'était sûrement des marques laissées par l'outil qui aidait à soutirer le sang des animaux. Il y a un cas en particulier qui m'a vraiment intéressé, mais malheureusement, j'ai pas trouvé une tonne de détails. C'est un rapport qu'il a écrit et qui est arrivé dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Belzile s'était déplacé dans cette région pour aller enquêter sur un cas qui est arrivé récemment. Et alors qu'il enquêtait la scène, à même pas 300 mètres de là, il a trouvé un autre site avec un autre cadavre de vache qui était mort depuis beaucoup plus longtemps. On sait pas vraiment quel organe il manquait ou quoi que ce soit, car le cadavre était en état de décomposition très avancé. Sur une circonférence d'environ 4 mètres autour de la carcasse, l'herbe semblait avoir été brûlée. Après avoir fait un prélèvement de sol, Belzile a envoyé ça à une équipe de scientifiques pour qu'ils fassent une analyse. Et le résultat, c'était très radioactif et ils ont dit d'être prudents et de rien manipuler à main nue. Belzile, c'était pas un hurluberlu vêtu d'un chapeau fait de papier d'aluminium ou un fermier consanguin qui a besoin d'attention. C'est une personne très respectée dans le milieu agricole et par les fermiers de la région. Bon, maintenant on se dirige en Australie, dans le milieu de l'état du Queensland, plus précisément à Yongola, une petite ville ou village de moins de 200 habitants. Parmi cette petite communauté se trouve la propriété de 14 000 hectares d'un homme du nom de Mike Cook. Et depuis plusieurs années, il y a beaucoup de vaches qui lui appartenaient qui sont mortes dans des circonstances assez étranges. Ça s'est étiré sur une période de plus de 12 ans. Mais au départ, Mike porterait pas trop attention aux cadavres. Vivant dans un endroit qui est vraiment précaire pour les vaches, il est pas rare qu'ils en perdent face aux prédateurs. Ou sinon, ça peut être dû aussi à la température très élevée. C'est en 2018, après un incident, qu'il a commencé à porter plus attention à ces événements-là. Alors qu'il patrouillait, il a croisé une carcasse de vache qui lui appartenait. Il remarqua que les pieds de la vache avaient été soutirés, et ce, avec une précision chirurgicale. Il observa aussi qu'il n'y avait aucune trace de sang, aucune trace de lutte. La peau de la mâchoire avait été retirée, ainsi qu'une de ses oreilles. Suite à ces événements-là, Mike et son épouse ont participé à une émission de radio locale pour parler du sujet. Ils ont vraiment été surpris par le nombre de personnes qu'ils ont contactées par la suite qui avaient perdu des animaux dans le même genre de circonstances étranges. Ensuite, on se dirige en Amérique du Sud, en Argentine, plus précisément dans la région de La Pampa, ainsi que de Santa Fe. Ça s'est produit dans les années 2010. Il y a eu beaucoup de cas de bétail mutilé de façon étrange. Et souvent, ça concordait avec des personnes qui témoignaient avoir vu des lueurs la nuit dans le ciel assez suspectes. Donc, quand les événements ont plus débuté dans cette région-là, dans la deuxième semaine du mois de juillet 2009, il y a un fermier qui a retrouvé 7 de ses vaches qui avaient perdu la vie. Tout ça dans des circonstances assez étranges. Et encore une fois, les similarités de leur mort et les blessures sont très, très identiques à ceux retrouvés sur les autres continents. Le fermier en question a ensuite déclaré que les blessures et les lacérations ne semblaient pas avoir été causées par des animaux. Ça semblait pas normal. Et après avoir étudié la scène, c'est comme si les vaches seraient tombées endormies. Il n'y a aucun signe ou aucune empreinte qui démontre des traces de lutte. Il n'y a pas plus d'empreintes qui démontrent que les vaches auraient tenté de se sauver. Mais en Argentine, il y a eu quelques petites différences. Semble-t-il qu'à l'occasion, il y a des animaux ou des oiseaux charognards qui ont été aperçus ensuite en train de se nourrir sur les carcasses. Suite aux événements, il y a des scientifiques qui ont étudié le phénomène et ils ont conclu que les morts étranges étaient sûrement dues à des rats ou des animaux charognards. Ces braves scientifiques ont aussi élaboré une autre théorie, que ce serait peut-être des câbles électriques qui se seraient rompus et qui auraient tué les vaches. Mais ensuite, il y a un haut placé en médecine vétérinaire qui opérait à l'Université de La Pampa. Son nom m'échappe, mais il a fait une étude qui a duré un peu plus d'un an sur les morts de bétail par mutilation dans la région. Et il a conclu que les blessures perpétrées étaient faites mécaniquement, et que c'était pas fait par des prédateurs sauvages, des charognards, et certainement pas par des rats. Maintenant, on va se diriger du côté de l'Europe. En Angleterre, il y a un endroit en particulier où l'apparition d'objets non identifiés dans le ciel est chose courante. Et bien sûr, les cas de mutilation de bétail inexpliqués. Mais à la différence dans cette région, les animaux les plus souvent touchés sont les brebis et les moutons. En plus d'avoir subi les mêmes genres de blessures que dans tous les autres cas, il y a une autre différence aussi, c'est que souvent les brebis ont une blessure sur le crâne, une perforation qui semble avoir été faite par un outil et non par un animal sauvage. La région affectée par les phénomènes inexpliqués est un corridor qui s'étend environ sur 80 km. Ça se situe entre Shrewsbury et la ville de Powys. Semble-t-il que tous les fermiers qui ont été questionnés qui habitent dans ce secteur ont eu des animaux qui ont retrouvé morts dans des circonstances mystérieuses. Tout sauf un. Et il ne faut pas oublier aussi que la majorité des habitants de cette région croient dur comme fort que c'est dû à des extraterrestres. Il y a des gens qui prétendent avoir observé des grosses sphères qui se déplaçaient dans le ciel et qui projetaient une multitude de vaisseaux lumineux. Et en plus de ça, la sphère en question, semble-t-il qu'elle projetait d'autres petites sphères, comme des petites versions d'elle-même, et que, d'après plusieurs, ce seraient les petites sphères qui seraient responsables pour la mort des brebis dans la région. Ça serait digne de Mulder et Scully dans X-Files, mais je crois qu'ils ont déjà fait un épisode sur la mutilation de bétail. Je suis pas sûr lequel j'avance. Maintenant, on va retourner aux États-Unis où tout a débuté avec Lady Snippy. C'est ça, aux États-Unis, comme j'ai dit, c'est fréquent, ça arrive depuis 60 ans. Et j'avais l'embarras du choix, donc j'ai décidé d'y aller avec quelque chose d'assez récent. C'est des phénomènes qui ont pu être observés dans le comté de Madison, au Texas. Ça s'est produit au nord de la ville de Houston, environ à 130 km. Il y a eu 7 cadavres de vaches qui ont été retrouvés dans des circonstances similaires que tous les autres cas que je vous ai expliqués. Toutes les vaches ont été retrouvées dans des endroits différents. Et c'est ça, ils démontraient tout le même genre de blessures. À la fin du mois d'avril, le shérif du comté de Madison a fait un post sur Facebook pour expliquer qu'ils n'ont pas trouvé aucune trace de lutte, d'empreinte de pied, de trace de pneus quelconque. Dans son message, on peut aussi lire qu'il n'y a aucun animal ou oiseau charognard qui se sont approchés des carcasses pour se nourrir, et ça même des semaines après la découverte des corps. Suite à ça, la Ligue de défense des animaux a offert une récompense de 5 000 $ à quiconque pourrait donner des renseignements qui pourraient mener à l'arrestation de ou des coupables. Ensuite, pour vous, mes auditeurs français, vu que vous êtes au moins 30%, j'ai essayé de trouver un cas qui s'est produit en France, mais j'ai constaté qu'en France, autour de 2020, il y a eu une grosse vague d'animaux qui ont été brutalisés et tués. La majorité de ces animaux étaient des chevaux. Il y a eu plus de 150 cas de ce genre à travers le pays en vraiment très peu de temps. Et c'est ça, après avoir fait des recherches et lu des articles pendant plus de 2 heures, j'en suis venu à la conclusion que la majorité de ces cas-là, c'est sûr je les ai pas tous lus, mais c'était fait par la main de l'homme, et c'est ça, les blessures étaient pas pareilles, souvent c'était par arme à feu ou les coups. Et si les blessures étaient faites à l'arme blanche, c'était souvent des coupures grossières, pas du travail de professionnel. Comme je l'ai mentionné, les animaux retrouvés à l'occasion étaient encore en vie. Mais plus souvent qu'autrement, les blessures qu'ils avaient subies étaient trop sérieuses et leurs propriétaires devaient les achever. Dû à ces événements-là, qui semblent avoir été très médiatisés sur Internet, j'ai pas été en mesure de trouver des histoires qui se sont produites en France et qui sont un peu plus paranormales. Si vous en connaissez quelques-unes qui se sont produites en France, ça serait bien plaisant que vous me contactez. Pour finesse en beauté, on va y aller avec les théories et les hypothèses, et croyez-moi, il y en a de toutes sortes. Et ça passe par les petits bonhommes verts, les cultes démoniaques, le chupacabra, des fous sadiques, les projets secrets du gouvernement, des loups-garous. Il y a même une classe de gens bien à part qui croient que les responsables seraient nul autre que des islamistes. Sacrement de ciboire de calice que le monde est épais. Tout aussi bien de rajouter Pizzagate un coup parti. Bon, je me lancerai pas dans toutes les théories qu'il y a, mais je vais y aller avec les plus populaires ou les plus plausibles. La première théorie, ça s'expliquerait dû à des causes naturelles. Je vais tout mettre dans le même groupe, comme les charognards, les rats, les électrocutions et tous les autres trucs du genre, les bactéries, les infections, je sais pas trop. Ce sont des théories que les gens plus terre à terre aiment bien, mais après tous les gens et les spécialistes qui ont examiné les blessures et qui ont déclaré que ça pouvait pas être fait par un animal, et sans oublier le fait qu'ils sont souvent vidés de leur sang. Là, on parle de bêtes pouvant peser jusqu'à 2000 livres, je sais pas ça fait combien de litres de sang, mais ça en fait pas mal. Donc, je veux pas m'éterniser sur cette théorie-là. Maintenant, on va passer à la deuxième, qui est que ce serait les êtres humains qui en seraient responsables. Je vais encore mettre ça dans le même groupe, comme ce serait le gouvernement et un projet secret qui dure depuis des décennies, ou ce serait un culte religieux démoniaque assoiffé de sang, ou peut-être des tueurs en série détraqués. En passant par les chicanes de fermiers, ça me semble un peu plus crédible. J'y croirais de nos jours, mais pas v'là 60 ans. Même aujourd'hui, la technologie pour laisser aucune trace. J'ai un peu plus de misère à y croire, mais maintenant, on va imaginer que le gouvernement est assez avancé technologiquement pour pratiquer ce genre d'opération. Sérieusement, j'aimerais vraiment ça connaître les raisons du pourquoi. Il peut y avoir une multitude de raisons que je connais pas, mais pourquoi saigner à blanc des vaches et prendre des organes tels que l'anus, les oreilles, la langue? Pour conclure ça, on va finir avec la dernière théorie qui est quand même très populaire. Vous l'avez sûrement déjà deviné, ce serait que c'est les extraterrestres qui seraient responsables pour la mutilation de bétail inexpliquée. Je dois avouer que ça concorde bien avec le congrès qu'il y a eu, je crois que c'est le 25 ou le 26 juillet, v'là une semaine. Ça avait l'air du sérieux, ils ont parlé pendant des heures d'extraterrestres avec 3 anciens haut placés de l'armée de l'air américaine. Ces 3 hommes-là prétendent que le gouvernement a des preuves qu'il y a de la vie en dehors de notre planète et que ce serait une forme de vie avancée qui serait déjà venue nous visiter à plusieurs reprises, semble-t-il.
depuis des décennies que le gouvernement nous cacherait des détails sur la vie extraterrestre. Donc c'est à suivre. Je crois-tu à tout ça? Je sais pas. Je sais que l'univers est très grand. Il y a sûrement d'autres formes de vie avancées. Mais sont-ils assez avancés technologiquement pour être venus nous visiter? C'est ça la question. En tout cas, qu'est-ce qui est certain, c'est que si ça se confirme dans les prochaines années, c'est la religion qui va en prendre un coup. Encore une fois, imaginons que les extraterrestres existeraient et ça serait confirmé, et que ce seraient eux les responsables pour avoir tué des vaches et les vider de leur sang et dépouillé d'organes vitaux ou reproducteurs. La question reste quand même, pourquoi? Pourquoi ils font ça? C'est de la haute gastronomie dans les banquets de petits bonhommes verts, je sais pas trop. Il y a une chose que je suis certain, c'est que cet épisode-là, il tire à sa fin. Je veux vous remercier d'avoir pris de votre précieux temps pour écouter l'épisode jusqu'à la fin, j'apprécie vraiment. Et n'oubliez pas de barrer vos portes, fermer vos volets et regarder en arrière de vous le coquin petit bonhomme vert.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant.
Ha ha ha.